simple à vous poser. On passe aux questions.
On passe aux questions. Michel me dit.
Oui. C'est une question de l'homonymie, finalement, parce que l'intelligence, il n'est pas sûr qu'on comprenne l'expression de Fillon. Vous faites comme s'il y avait une espèce de différence admise entre intelligence et bêtise. Mais l'acception actuelle d'intelligence se trouve en dilocution comme voiture intelligente. Donc, pas intelligente. Donc, de même pour attention, parce qu'entre ce que Pascal, Simone Veil, attention, etc. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelques difficultés, disons, appeler ça d'homonymie en général. Parce que, voilà, c'est ça ma question un peu bizarre. Est-ce qu'on peut parler comme vous faites en faisant comme si on allait, quand on parle avec Fillon, on parlait de la même chose? Parce que bataille de l'intelligence, ça veut dire la bataille des montres intelligentes, je ne sais pas comment on les appelle. Qu'est-ce que vous recevez cette question?
Bien sûr, c'est une question tout à fait centrale.
Oui.
Mais dont je dirais qu'elle n'est pas spécifique à. Quand les sophistes parlent d'intelligence et que Platon parle d'intelligence, il y a déjà aussi cette question. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les sophistes, d'ailleurs. Hein. Tout comme j'ai du respect pour les montres intelligentes. qui sont. Cela étant, ça fait partie. Cette question que vous posez fait partie de ce que j'appelle les problèmes de pharmacologie, pour moi. Donc, c'est ça le pharmacologie. C'est déjà ce qui permet cette homonymie. C'est déjà un trait pharmacologique, ça. Qui est un trait de richesse, parce que ça veut dire qu'il y a une polysémie qui rend possible, c'est la transindividuation, c'est la dialectisation, c'est tout ça. Et en même temps, c'est un piège contre lequel il faut lutter en permanence, de désambiguisation, il faut faire une logique au sens d'Aristote, etc. etc. Maintenant, votre question, je pense qu'il faut la prendre, la poser dans un contexte historique et géopolitique très précis. Je ne pense pas qu'en réalité, François Fillon pense aux montres intelligentes. Je ne pense pas non plus qu'il pense aux systèmes d'experts, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je pense qu'il pense que pour mener la bataille à l'intelligence, il faut passer par l'intelligence artificielle, et sur ce point-là, moi je suis d'accord avec lui. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un hippomnématon, comme l'écriture, et c'est pas du tout la même chose que l'écriture, ça pose des problèmes tout à fait nouveaux. D'ailleurs, je vais commettre un truc là-dessus bientôt, mais ça, c'est dans tous les cas, ça fait partie de la catégorie des hippomnématas, comme l'écriture. Ce sont des machines à écrire très très perfectionnées, les systèmes experts, les systèmes d'intelligence artificielle. Cela étant, dans ce que François Fillon appelle la bataille de l'intelligence, l'enjeu, c'est Riyad. C'est il faut constituer un haut pouvoir. C'est le discours que Tony Blair tient depuis 10 ans, inspiré par Tony Giddens notamment, mais pas seulement, que maintenant la lutte économique se fait pas par le contrôle des processus de production de la matière, mais par la capacité à produire des concepts. Que ce soit des concepts marketing, que ce soit des concepts technologiques, que ce soit des concepts politiques, que ce soit des concepts militaires, etc. C'est ce qu'on appelle le soft power. Avec un scope très large, dans ce que les Américains appellent soft power, c'est extrêmement vaste. Ça va de ce qu'on appelle l'intelligence au sens de l'espionnage, l'intelligence économique et toutes ces choses-là, jusqu'à la bataille de Nike pour contrôler les comportements individuels du moindre petit misérable au fin fond de l'Afrique qui n'a rien à bouffer, mais il y a des badass Nike, en passant par l'école normale supérieure, où il faut faire influencer l'université française, y compris en venir des profs, etc. Ben, tout ça. Bon. Et ça, aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, j'arrive plus à retrouver son nom, Christol, un penseur néoconservateur en 1980 et quelques, avait fait un grand discours là-dessus, en disant, tout comme les Anglais ont mené la bataille des mers au 19e siècle, bien avant le 19e siècle d'ailleurs, ont étendu leur domination sur le monde par ça, aujourd'hui il faut que nous menions la bataille des médias, etc. Mais, dans cette affaire, la question c'est de nos pouvoirs. Et pour moi, le nos pouvoirs, il n'est pas né maintenant, au XXIe siècle, il n'est même pas né au XXe siècle, il est né dès le XIXe siècle. lorsque l'école de Jules Ferry, plus l'école pratique de hautes études et tout un ensemble de dispositifs comme ça ont commencé à être pensés, on a commencé à mettre au cœur de l'avenir de la République et de la collectivité politique et économique l'esprit et la bataille d'intelligence. Et ça, je crois que Fillon, c'est de ça dont il parle. François Fillon est un homme extrêmement cultivé, qui connaît ça très très bien, et je pense que c'est à ça qu'il pense. Après, que tout ça emporte dans un discours, une idéologie qui le dépasse, les montres intelligentes et toutes sortes de niaiseries, de confusion, c'est sûr, c'est absolument certain. Mais moi, je fais crédit, je prends très au sérieux, très au mot, aussi bien François Fillon que Tony Blair.
Et aussi, c'est que bataille veut dire concurrence entre les nations, et non pas du tout bataille pour l'esprit humain.
Alors, après, c'est évident que... Là, par contre, chez François Fillon, c'est évident que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer un autre pouvoir français pour pouvoir combattre nos concurrents européens, qu'associés avec nos concurrents européens, nous puissions combattre nos concurrents américains, et qu'associés avec nos concurrents américains, nous puissions combattre les nouveaux entrants de l'intelligence, qui sont en train de mettre le paquet, que ce soit Riyad, Pékin, Shanghai plutôt, et tant d'autres. Bon. C'est bien entendu, là, en effet, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, moi je crois que, il y a une grande question à élucider, de savoir, est-ce que, c'était ma première question, est-ce que c'est une bataille contre la bêtise en contenant les imbéciles en les laissant dans leur bêtise, ou est-ce que c'est une bataille contre la bêtise pour que tout le monde devienne plus intelligent? L'horizon de cette question, c'est l'avenir écologique de la planète. Hein. Pour moi, j'argumente toujours en disant, on n'a pas le choix que d'élever l'intelligence moyenne au plan mondial, même si on avait moralement, on se disait, on s'en fout pas mal que les pays qui n'ont pas d'infrastructure de formation, etc., restent comme le Sahara et restent pauvres à jamais. Quoi. Même si on se disait, moralement, je m'en fous, politiquement, ça ne tient pas debout. Parce qu'on est obligé, aujourd'hui, à mon avis, ça c'est mon avis, mais, d'élever l'intelligence collective, donc je suis un offreur. Je dis qu'il faut à l'horizon de mes interventions, là, c'est ça que j'essaie de dire dans deux semaines, il faut renouer avec une bataille de la majorité. Je vais aller petit à petit en disant, le problème, ce n'est pas une bataille de l'intelligence, c'est une bataille de la majorité. Il faut reconstituer un projet de majorité, sans être pour autant un néo-moderne, sans faire de la... Je vais vous donner la parole, mais il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant.
Non,
c'est
pas forcément une question.
Je ne
suis pas habitué de vos conférences, mais je suis très attentif à vos discours. Comment dire, moi je suis designer d'une grande entreprise qui fabrique de l'automobile, qui est du contrôle par la voiture intelligente, on va dire que c'est mon quotidien. Donc voyez-vous, la surprise d'être dans des conférences comme ça fait que je vais être considéré comme un espion industriel. mais en même temps, non, c'est de la responsabilité. Hein. Il n'y a pas que des voitures pour polluer, mais j'ai conscience de fabriquer un objet civilisationnel qui symboliquement contrôle les consciences mais qui participe en même temps à tout ce que peut faire une société et un vivre ensemble. Donc ça, mon quotidien, je dessine, j'ai pas conscience de ça. Pour en revenir à juste ça, c'est voilà ma question, c'est comment avez-vous réagi par rapport à moi, il y a une exposition que j'ai vue récemment sur rock'n'roll à la Fondation Cartier. Et j'ai trouvé super pertinente parce que j'y ai découvert, on va dire, une sorte de lieu de, où il y avait les dispositifs radiophoniques, la captation de l'esprit. Moi, je pensais aller voir une exposition de musique liée à une époque, mais en fait, j'y ai vu parce qu'il y avait une qualité. De propos et même de choses montrées, notamment le coup, où j'ai vu en fait le lieu d'une naissance où naissance du rock'n'roll par le rhythm and blues, donc par les noirs d'une certaine manière, l'affranchissement, comment ils pouvaient prendre le pouvoir d'une certaine manière, inconsciemment, mais par les dispositifs qui étaient les premiers studios d'enregistrement, le début des majors, c'est-à-dire comment je peux faire de l'argent en diffusant de la musique que j'aime faire, mais c'est comment je vais m'y prendre pour diffuser et capter l'attention des gens. Donc c'était comment vous réagissez peut-être par cette exposition que vous avez vue ou pas. Moi je trouve très, Il y a beaucoup d'arguments pour, d'une certaine manière, pour révéler les dispositifs que vous révélez dans votre sens. Savoir comment vous l'avez vu et comment vous pouvez m'éclairer encore plus sur cette exposition-là, qui est très belle, par rapport à vos textes. Tout ça lié à la culture noire dans la culture noire des sens de la musique et notamment des médias, c'est-à-dire les foyers ont la radio mais pas encore forcément la télévision. Ça, c'est très important. Et moi qui fais de l'automobile, on a conscience que la voiture est un objet qui est un. Enfin, moi j'en ai conscience, attention, j'en ai conscience dans le hiérarchique. Mais moi je travaille sur un objet que je considère comme un puissant dispositif civilisationnel, parce que vous êtes dans un état de méditation et de réflexion dans une voiture, vous êtes, c'est cinématographique pour moi, mais quand on lutte en voiture intelligente, c'est une véritable arme, l'industrie de l'armement. BMW, Mercedes, c'est l'industrie de l'armement pour moi. Nous, les Français, à la rigueur, on a une certaine forme de philosophie, de responsabilité. Imaginer qu'il y a une armada, le marketing, on est totalement déconnecté, on est presque en lutte avec eux tous les jours. Mais ce qui est grave, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'est qu'une poignée de à penser des objets civilisationnels qui modèlent des cerveaux humains. Ça paraît con, mais aussi bien la forme extérieure que l'intérieur, c'est redoutable.
C'est très intéressant, vos deux questions. Deux remarques. Je vais commencer par l'automobile. Bon. Alors, moi d'abord, l'automobile pour moi, c'est un Falcon.
Et pour finir, je suis issu de l'école qui n'est pas très loin, qui forme les salons.
J'ai enseigné. J'ai enseigné. J'enseigne pas cette année. Qui est une école passionnante d'ailleurs. J'ai un de mes plus grands plaisirs d'enseignement, c'était aux arts des
cours. Mais ça pose la question de l'éducation. Alors c'est là où moi je vous pose aussi la question du mythe de l'autodidacte. Hein, que peut-être, alors, je ne sais pas, un autodidacte, peut-être que c'est un court-circuité ou un résistant par rapport aux institutions de programme. Mais des types d'écoles comme on dit les beaux-arts, les artistes, ou le designer, hein, qui est une forme très récente hein, d'individus dans les institutions de programme, qui est liée aussi à la naissance du marketing, disons. On est des mutants. On va dire, les designers sont des mutants mal identifiés dans la société. Vous voyez mon propos, hein, je fais de l'industrie, mais en même temps je maîtrise d'une certaine manière de l'information que n'ont pas forcément d'autres gens dans l'industrie. C'est savoir voilà, comment vous considérez ces lieux d'enseignement. Ce sont les écoles d'art appliqué ou.
Ça je ne vais pas vous y répondre aujourd'hui parce que c'est un sujet très important qui m'intéresse beaucoup, mais en revanche, je me permets de vous inviter à venir participer le 27 et 28 novembre au Centre Pompidou, à un colloque co-organisé par l'École supérieure de création industrielle de la rue Saint-Sabin, où j'ai aussi parfois donné des conférences. Mais qui est surtout un partenaire de l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou. Le groupe Cap Digital qui rassemble 300 entreprises de la région parisienne et le Centre Pompidou, Institut de Recherche et d'Innovation. Nous faisons un colloque, ça s'appelle les entretiens du nouveau monde industriel qui va être consacré au nouveau design, entre autres. Et donc là, on parlera un petit peu des questions que vous avez soulevées. Mais sur l'automobile, j'aurais énormément de choses à dire là-dessus, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. George Collins le sait, parce qu'il a lu ce texte il n'y a pas très longtemps. Moi, je réfléchis beaucoup à ce que c'est qu'une automobile que l'on peut, on n'a plus besoin de la conduire. Et en quoi c'est tout à fait une autre automobile. Puisque, à l'Université de Compiègne, où je continue à enseigner, ça fait très longtemps que l'Université de Compiègne réfléchit à la voiture entièrement sans chauffeur. Et je pense comme vous que c'est un objet civilisationnel. Il se trouve qu'une bonne partie des choses que je fais et que j'écris, je les écris dans ma voiture. Parce que, je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, je les écris avec un magnéto. Je mets un micro-cravate ici, et c'est l'effet cinématographique dont vous parliez tout à l'heure.
la mise en lévitation. Moi, je dis, je rentre en lévitation. C'est un parcours que je fais depuis 20 ans, c'est toujours le même. C'est d'ailleurs les parcours où on a les accidents les plus graves, parce qu'un jour, on a une perte de vigilance. Mais elle conduit toute seule, la voiture. Et moi, je suis en pilotage automatique, c'est-à-dire mon corps pilote, mais moi, je suis tout à fait dans autre chose. Et c'est fondamental pour moi. J'ai 3 heures par semaine de véhicule comme ça. Et c'est là que je travaille le mieux. En même temps, ce type d'attention très spéciale qu'est l'automobile ou le vélo, parce que je peux aussi dire ça à vélo, et c'est pas la même attention, parce qu'il y a une motricité du corps. Aujourd'hui, est systématiquement canalisé et capté via l'autoradio, via toutes sortes de trucs comme ça, pour être mis à disposition. Voilà. Bon. Le problème n'est pas de... Enfin, c'est pas là. On ne peut jamais qualifier un objet comme l'automobile, soit comme un objet barbare, soit comme un objet civilisé. Aucun de ces objets n'est ni l'un ni l'autre. Ça ne veut pas dire que je suis pas en train de dire que la technique est neutre et tout ça. Non, ce que je veux dire, c'est que vous posez ce problème pharmacologiquement. Après, il y a des pharmacas qui sont massivement toxiques. C'est-à-dire que si vous avez une certaine quantité, par exemple, de molécules de ceci ou de cela dans un milieu, à ce moment-là, le milieu devient empoisonné. Rien à faire. Et vous savez, par exemple, que si vous savez que vous passez de 4 milliards de tonnes à 6 milliards de tonnes de production de CO2, puis à 8 milliards de tonnes, exactement, vous savez qu'à un moment donné, la chose va devenir toxique. Et c'est ce que Toyota est en train d'éprouver, le fait d'avoir été condamné avec d'autres constructeurs automobiles à rembourser des gens qui ont des maladies respiratoires à Tokyo, et que ces automobiles ont baissé de 7%, ils ont vendu 7% de moins qu'année dernière de bagnoles au Japon. Et c'est comme ça qu'on posait le problème là aussi du pharmacon. C'est-à-dire que c'est pas l'automobile en tant que tel, mais c'est l'industrie automobile, c'est un dispositif. Bon, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vais pas parler trop longtemps. Malheureusement, je n'ai pas vu cette expo à la Fondation Cartier. Et je regrette énormément, d'autant plus que je m'intéresse en ce moment, pour une raison très précise, pour un travail que je suis en train de faire, à l'influence de la radio, de la musique et tout ça, dans la formation de la génération des années 60. Alors, ce dont vous parlez, c'est un peu avant. Et par ailleurs, je me suis beaucoup intéressé dans le passé, j'ai écrit des textes là-dessus, sur comment s'est constitué le jazz, la musique noire de jazz, pas de rock ou de soul, de jazz, comme une façon précisément pharmacologique de s'emparer. Et il y a eu un très bon texte dans quelqu'un, je vous dis le nom malheureusement, dans la revue Multitude aussi sur ce sujet. Bon, ça, c'est typiquement des dispositifs, au sens où beaucoup en parlent. Alors, j'ai pas vu l'expo, donc je ne peux pas vous le dire.
Mais... Je ne connais pas les dates de fin, mais.
28 octobre.
Donc, je peux encore y aller. Je vais y aller. Pas ce week-end, parce que je ne serai pas là, mais j'y vais le week-end d'après. Excusez-moi, il y avait une autre question, monsieur.
Après. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas designer, je suis enseignant.
Je sais.
Je vais vous dire que. Je ne sais pas si je vais vous dire, je suis catastrophé. Je m'en étais un petit peu rendu compte, mais du fait que vous dites que mes étudiants sont câblés différemment, je m'en étais un petit peu aperçu. Mais dans le cadre, je vais t'appeler un séminaire de polymologie, je me dis, est-ce que je fais comme votre américaine, je m'adapte, ou est-ce que j'attends que Stigler, dans le cadre de son séminaire, me donne les solutions pour imposer aux industries de programme une façon de faire qui permette que je ne capte plus l'attention de mes étudiants qui sont des jeunes gosses et me rendent un petit peu la balle. Or, j'ai l'impression que si je vous écoute, il va se passer un certain temps dans cette bataille pour l'intelligence. Je ne sais même pas, dans un de vos textes, vous parlez d'imposer aux industries de programme cette chose-là, d'ailleurs, d'arrêter de faire ce qu'ils font. Ça va prendre du temps et je me disais, mais la M génération, elle est perdue. Celle qui est câblée, qui n'a pas de prof adéquate en face d'elle, et qui n'a pas de proposition politique pour corriger ça.
Alors moi, je ne crois pas du tout qu'elle soit perdue. Je pense comme Catherine Reyes qu'il faut faire... Et puis d'abord, elle a peut-être des tas de trucs à nous apprendre. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas câblée comme nous qu'elle n'est pas bien. Peut-être qu'au contraire, elle va nous apporter des tas de choses que nous n'imaginons pas du tout, et peut-être que c'est nous qui sommes les imbéciles dans cette affaire. Et je dirais que le problème n'est pas celui-là. Le problème... Alors, parce que, après, moi, j'inscris à tout ça, je ne peux pas le faire maintenant, parce que je parle trop, mais dans Ars Industrialis, la dernière séance, au mois de juin, on l'a consacrée à la campagne de Canal J. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu cette campagne, Canal J a fait une série d'affiches dans le métro, montrant un père, un grand-père ou un frère avec ses, les gamins en disant ils valent mieux que ça, les enfants valent mieux que ça.
Nos enfants
valent mieux que ça. Et en montrant qu'il valait bien mieux mettre la télé, les enfants devant la télé, plutôt que les laisser s'emmerder avec leur père et leur grand-père. Bon. J'ai beaucoup travaillé cet été sur ce sujet parce que pour moi, justement, et je me suis intéressé à ce hasard qui n'est jamais hasard, le ça, qu'est-ce que ça veut dire mieux que ça? Ben, ça veut dire le ça, justement. Chez Freud, c'est le ça qui est en jeu. Dans les relations intergénérationnelles, ce qui est en jeu, c'est le ça. Et il n'y a jamais de ça possible sans intergénération. Ça ne veut pas dire que la génération descendante est plus contre la précédente, ou réciproquement. Excusez-moi de parler vulgairement, je ne devrais pas le faire. Ça veut dire simplement qu'il y a une différence des générations. Et que cette différence des générations, elle est... il faut, pour que la génération ascendante puisse être ascendante, qu'elle ait une génération descendante. Et réciproquement, je dis de la palissade, pardonnez-moi, parce que, pour le dire dans un langage un tout petit peu plus problématisant, il faut une relation transductive entre les deux générations. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles ne soient pas les mêmes, mais en même temps qu'elles soient une relation transductive. Et cette transduction, ça s'appelle le « ça », pour moi.
Quand il y a différence de câblage, je pose évidemment le problème de la transmission.
Oui, mais je pense qu'il y a déjà eu des différences de câblage. Je me réfère souvent moi, à un livre très important qui s'appelle « Les Grecs et l'Irrationnel » de Dodds. À mon avis, une œuvre fondamentale sur l'Antiquité. Qu'est-ce que dit Dodds? Il raconte la guerre qu'il y a eu entre la gérontocratie et les jeunes Athéniens qui en voulaient comme des fous, qui n'étaient peut-être pas câblés non plus, comme les gérontocrates. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas être... Il n'y a pas de câblage au départ. Donc si on pose qu'il y a une pharmacologie, originellement, une organologie, et que les sociétés se distinguent par le fait qu'elles ont des systèmes attentionnels distincts, alors, on ne cesse pas de passer d'une génération à l'autre avec des... Par exemple, mes grands-parents n'avaient ni la radio, ni la télé, ni tout ça, bon, etc. Les grands-parents de mes grands-parents ne savaient même pas lire. Bon. Il est évident qu'au XVIIe siècle, l'immense majorité des gens ne lisaient pas. Ils n'étaient pas câblés comme ceux qui lisaient. Si vous prenez strictement ce que dit Castinel, c'est ça que ça veut dire. Ça ne les empêchait pas de parler. Maintenant, parce que... Je ne suis pas en train de dire, du coup, parce que moi je ne suis pas d'accord avec Catherine Hale sur un fait, c'est que je crois, comme vous, qu'il faut lutter contre l'hégémonie, et je prends le mot hégémonie au sens de Gramsci, là, contre l'hégémonie culturelle des industries culturelles. Et que là, il faut prendre le mot de François Fillon. Il y a une bataille d'intelligence à mener, avec des armes, et contre la bêtise. Ce n'est pas pour des raisons morales ou humanistes que je dis ça, c'est pour des raisons... simplement de rationalité. Et là, je crois, c'est pas la culture américaine de dire on peut s'opposer aux médias, même si je le souligne, je l'ai déjà souligné, Al Gore s'oppose depuis peu de temps aux grands médias de masse. Et c'est quand même un truc incroyable de la part d'un vice-président des États-Unis. C'est un truc inimaginable. Et s'il le fait, c'est parce qu'on commence à sentir, et moi j'ai senti l'année dernière quand j'étais à Chicago, que l'Amérique du Nord commence à s'inquiéter de ses médias. Les middle class commencent à vraiment. Parce qu'ils ont ce problème. De attention déficit disorder, c'est très important aux États-Unis. Mais chez nous aussi, ça devient très très important. Alors, ce que dit, en revanche, Catherine Hale, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle dit qu'il faut arriver à agencer la deep attention et la hyper attention en inventant de nouveaux dispositifs pharmacologiques. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Mais j'ajoute, il faut le faire en luttant politiquement. Moi, je suis moins convaincu que vous que ça sera forcément très long. D'abord parce que TF1 est à vendre.
TF1 pardon.
Est à vendre.
Ah bon.
Ah oui, mais pourquoi est-ce que TF1 est à vendre? Vous allez me dire parce que M. Bouygues veut racheter Areva, certes. Mais sûrement que le président de la République et son ami a dû lui dire, monsieur le cher Martin, tu ne peux pas à la fois avoir TF1 et l'industrie atomique française. Ça ferait vraiment trop, quoi. Mais il n'y a peut-être pas que ça, il n'y a que l'audience de TF1 baisse en ce moment. Et que le business model de TF1 est de plus en plus dans le noir, enfin dans le rouge, à l'avenir. Hein. On sait que c'est un truc qui commence à... Moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. il faut se tourner vers le politique, vers l'économique, en leur disant, vers le militaire, en leur disant, messieurs, au système qui fonctionne depuis un siècle avec, comme vous dites, business model, eh ben c'est fini ce système-là. Et donc, négocions. Comme on négocie dans un comité d'entreprise, on négocie. Bon, on veut 300 euros d'augmentation, ben, vous aurez 100 euros d'augmentation. Mais on négocie, il faut qu'on négocie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien de dire à Valérie Pécresse, on ne veut pas ceci, à François Fillon, on ne veut pas cela, etc. D'accord, tout ça. Mais il faut surtout dire ce qu'on veut. Et voilà, c'est dans cet esprit que je fais ces liens. Et je pense qu'il faut vouloir quelque chose. Pour le moment, je trouve qu'on ne veut pas beaucoup. Mais après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des esprits câblés différents des autres, différemment. Bah, c'est comme ça, ce n'est pas forcément des débiles mentaux, loin de là. En revanche, ça pose des problèmes, il faut les analyser, ces problèmes. Alors là, je revendique, moi, une référence à Kant et à la question de la majorité. Est-ce qu'on peut produire la majorité avec la peur à l'attention? Il y avait une autre question.
Oui, peut-être c'est un peu frustré dans votre intervention sur l'opposition que vous faites un peu absolue entre la justice et la bêtise, comme si on pouvait ne pas avoir de corps, ou comme si être bête, c'est pas être humain. Enfin, je pense que dans le fond, c'est pas ce que vous pensez, mais moi, ça m'a choqué, parce que bah, j'ai fait personnellement un travail là-dessus dans ma formation personnelle. J'écris, j'essaye de créer, etc. Je me suis rendu compte qu'à certains moments, l'intelligence avait été un vrai problème pour moi, que ça m'avait fait beaucoup de bien de devenir bête, et par ailleurs, et que ça ne m'avait pas rendu définitivement bête ou perdu. Voilà, et par ailleurs, je pense que dans le succès des industries programmes dont vous parlez, il y a le fait que elles s'adressent à la bêtise d'une manière que l'école refoule. Et donc elles ont du succès parce qu'elles ont senti quelque chose sur l'humanité, sur qui nous sommes, que l'école, elle, refoule, parce que l'école, elle est prise au piège d'un certain élitisme, d'un certain culte de l'intelligence, qui est aussi pour moi un culte de la désincarnation. Enfin, bon, là je mélange beaucoup de choses, mais voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la bêtise comme notre ombre? Si on met une lumière quelque part, il y a bien une ombre quelque part aussi, quoi.
Oui, c'est une question très très intéressante. J'ai pas développé, mais bon, j'avais mis en note dans mon texte, c'est de parler de l'être, ce que j'appelle l'être par intermittence. Bon, moi je pense que nous sommes des êtres intrinsèquement. Nous ne sommes que par intermittence en acte. Et la plupart du temps, nous ne sommes qu'en puissance. La situation de bêtise, c'est pas. On est tous dans la bêtise. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour faire une concession à ce que j'appelais tout à l'heure les imbéciles. Nous sommes tous dans la bêtise. La seule possibilité. D'abord, parce que je n'ai pas continué ce que je disais, parce que j'avais déjà évoqué ça ici, donc je ne voulais pas en remettre une couche, mais la seule possibilité qu'on puisse être affecté par la bêtise et en avoir honte, c'est que cette bêtise nous renvoie à la nôtre. Et donc, si nous pouvons voir la bêtise, c'est parce qu'elle nous donne à voir celle de nous sommes porteurs. Donc, elle nous révèle à nous-mêmes. Deuxièmement, qu'il puisse y avoir dans la bêtise, enfin, dans un état qu'on pourrait apparenter la bêtise, appelons ça plutôt la stupeur, la stupidity, qui n'est pas tout à fait la même chose que la bêtise, celle des stupéfiants. Chercher l'état de stupidité. C'est un état, on parlait de musique tout à l'heure, beaucoup de musiciens recherchent cet état pour pouvoir atteindre, et c'est un état qui a été pratiqué, et puis ça fait partie. Ce sont des pratiques aussi d'ailleurs, rituelles, religieuses, etc. Donc tout ça est très compliqué, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Après, il ne faut pas mélanger bêtise et idiotie. Parce que souvent on confond les deux. On a beaucoup dans le monde artistique d'ailleurs parlé d'idiotie ces derniers temps, souvent en confondant bêtise et idiotie. C'est pour moi pas du tout la même chose. Mais je suis bien d'accord avec vous. On ne peut pas opposer bêtise et intelligence. Et je prône, moi, intelligence, c'est pas un mot que j'utilise habituellement. Hein. D'ailleurs, je l'ai simplement pris là parce que je voulais me référer à François Fillon. Et à un moment donné, il faut contextualiser. Alors plutôt du nous, de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est l'intellect. Le nous, c'est plus compliqué. Après, pour venir à votre question, qui est là où elle est pour moi la plus intéressante, c'est là où vous parlez de la bêtise et des médias. Et de ce que. Bon. Ben, c'est vers ça que je voulais aller avec la mystagogie. Parce que je pense que dans les médias, il y a quelque chose qui sait faire la part d'une chose, à mon avis, irréductible, qui passe par l'affect et qui renvoie à quelque chose qui n'est jamais de l'ordre de la simple intelligence, disons, rationnelle. Et qui, si j'avais eu le temps de développer tout ça, j'aurais dit, ben, il faut écouter ce que dit Mandelson sur la différence entre Bildung, Kultur et Aufklärung. Et il y a une part dans toute société humaine, dans les techniques de formation de l'attention, il y a toujours une part qui passe par ce que j'appellerais plutôt une stupéfaction qu'une bêtise, et qu'on ne peut pas évacuer, et qui renvoie à quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Bon. Mais là, je ne peux pas le développer, j'en parlerai, je pense, la semaine prochaine. Mais en tout cas, je fais tout à fait droit à votre observation. Marc.
Oui, moi je voudrais faire deux remarques sur tout ce qui vient d'être dit depuis 2 heures. La première, c'est que je pense que, par rapport à cette question, je voudrais faire deux remarques sur l'opposition massive institution de programme, industrie de programme. Premièrement, je pense que cette opposition-là doit être pensée aussi, en parallèle à cette opposition-là, les mutations de la question de l'égalité des chances. Je pense que ce que tu analyses là, transforme profondément la façon de penser l'égalité des chances, et qu'on pourrait dire par exemple qu'aujourd'hui, et ça crée des effets de panique terribles dans toutes les couches sociales, c'est que la question de l'égalité des chances est travaillée, bousculée par quelque chose qu'on pourrait presque appeler une égalité de la malchance. Okay, de la malchance qui serait liée effectivement au fait que là où tout le monde est remis au même niveau, c'est que sauf rare exception, tout le monde est exposé aux industries de programme. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il est difficile de faire une opposition aussi massive et aussi radicale. Je crois qu'il faudrait un peu la nuancer des industries de programme et des institutions de programme. Pourquoi ? Parce que je pense que dans les institutions de programme, tout n'est pas à jeter. Dans les industries programmes, je pense que dans les programmes, tout n'est pas à jeter. Et dans le fond, s'il faut de temps en temps prendre la peine de dépouiller tout simplement les programmes de ces industries programmes, et se voir qu'il y a un certain nombre de choses qui, au contraire, éveillent l'attention. Et la deuxième chose, c'est que je pense que dans la destruction de l'attention, tout ne peut pas être mis sur le compte des industries programmes. Et que, en particulier dans les difficultés de l'attention, il y a des choses qui tiennent au fonctionnement des institutions de programme elles-mêmes. Et, par exemple, il faut aussi se poser la question de savoir comment les institutions de programme sollicitent l'attention. Quel type d'attention elles demandent et comment elles la contrôlent et comment elles la sanctionnent. Et je pense que c'est pour ça que si on s'interroge sur le contrôle de l'attention, sur la sanction de l'attention, on voit qu'on ne peut pas donner complètement congé, aussi radicalement que tu as tenté de le faire, à la problématique foucauldienne disciplinaire, au sens que Foucault donne au mot discipline. Parce que là, on a eu aussi un glissement, enfin, on a joué sur deux sens du mot discipline, hein, à la fois sur les disciplines constitutives de champ, et sur la discipline comme contrôle, des corps, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas quand même donner totalement congé, parce que les institutions de programme organisent aussi un contrôle de l'institution, de l'attention, qui est en même temps un contrôle du temps, et qui peut se retourner contre l'attention elle-même, et qui se retourne contre l'attention elle-même aussi gravement que les industries de programme. Donc alors, c'est toutes ces perturbations-là que je voulais...
Aussi gravement, je ne sais pas...
Pas aussi gravement, du
coup, pas le problème de notre phare, d'ailleurs, mais c'est pas la même nature de l'entendement. Mais bien entendu, ça, de toute façon, on peut toujours se méfier de toute opposition, quelle que puisse être. Je suis tout à fait d'accord. sur la question de savoir qu'il y a des choses bien dans les industries de programme, ça je suis tout à fait d'accord aussi. En vérité, pour moi, ces questions d'éducation sont des questions de génération, des âges. Je pense que l'éducation, de toute façon, tous les gens qui ont écrit sur l'éducation ont dit ça, c'est une attitude initiale, si je puis dire, des discours sur l'éducation, hein, c'est-à-dire qu'à tel âge on fait ci, après on fait ça, etc., etc. On ne fait pas faire un certain nombre de choses à des enfants, même s'il y a des exceptions, parce qu'il y a des surdoués, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Je pense que, moi, c'est ce que j'appelle des âges du pharmacone. Et un truc qui est très bon à tel âge peut être très mauvais à tel âge. Y compris, c'est pas simplement pour les jeunes. Ce qui est très bon, le sucre qui est très bon à tel âge, pour moi est mauvais, par exemple, maintenant. Parce que j'ai vieilli, parce que, voilà, j'ai du diabète, etc. Et tout est comme ça. Absolument tout. Par exemple, on commence à me dire vous courez, bon, vous faites du sport, bon, c'est bien pour la santé. Oui, mais faites attention, à un certain âge, ça devient mauvais. Dangereux, bon. Alors, le problème, c'est pas de savoir si les industries de programme sont bonnes ou mauvaises, ça ne veut rien dire. Le problème, c'est comment on agence des politiques éducatives avec ces choses-là. Moi, par exemple, je dis, dans un bouquin que je vais sortir là-dessus bientôt, que Jules Ferry, ça n'existerait pas sans les industries éditoriales, privées, qui font déjà toutes sortes de livres fondamentalement anti-éducatifs. Je veux dire, des livres de bêtises, quoi, de bêtises. Bon. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, je dis Jules Ferry, mais je décris une époque, à un moment donné, il y a quelque chose qui consiste à dire que la société moderne passe par des agencements. Ce que Deleuze en appelait des agencements. Passe par des agencements qui relèvent de ce que j'appelle, moi, une organologie générale, c'est-à-dire une organisation sociale, une organisation technique, une organisation psychophysiologique, et je les agence. Psychophysiologique, ça passe par l'éducation physique et sportive, ça passe. Et à un moment donné, ça passe par la station assise dans le panopticon scolaire qui conduit, bien entendu, que je ne suis pas en train de dire que Foucault a tort quand il décrit l'école comme une institution disciplinaire, l'examen comme un truc, bien entendu. Je trouve simplement très étrange qu'il tout à coup, il oublie tout ce que dit Kant sur le sujet, qu'il oublie Condorcet, qu'il oublie, et qu'il ne parle que des écoles religieuses, que son modèle qui n'est pas l'école religieuse, c'est l'école militaire. Etc. Et je me dis, attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça n'a plus de sens de former des sujets, d'éduquer ça n'est que la machine biopolitique. Je dis non, pas du tout. Moi d'abord parce que je suis prof, j'adore enseigner, et que je pense qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'enseigner et que d'être enseignant dans la vie. Après, ce que tu dis, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, que d'abord l'institution de programme peut marcher comme une industrie de programme. Malheureusement, elle marche de plus en plus comme une industrie de programme, sous l'effet d'ailleurs des industries de programme. Et d'autre part, que, bien entendu, que dans l'industrie de programme, il y a des tas de choses formidables. L'industrie de programme, c'est le cinéma. Moi, j'adore le cinéma, je soutiens le cinéma, je viens de faire une expo sur le cinéma, etc. Donc, il ne s'agit pas de. Par contre, il s'agit de décrire des agencements organologiques. Et dans ces agencements actuellement, il y a, de manière très claire pour moi, une politique qui consiste à dire on donne le contrôle fondamentalement de l'individuation juvénile en particulier, on le laisse. Il faut savoir que quand même dans la TNT, il y a une chaîne pour les bébés qui a été votée par le Parlement. Les bébés de 12 à 36 mois, je crois. Spécialisés là-dedans. Alors qu'on sait absolument, de manière certaine maintenant, il y a des gens qui me diront que je m'engage trop, peut-être ici, mais moi je considère que c'est acquis de manière certaine que la consommation de télévision pour les enfants de moins de 3 ans est absolument mauvaise. Ça, j'en suis aujourd'hui absolument convaincu, compte tenu de tout ce que j'ai lu cet été sur ce sujet. Je suis certain de ça, que c'est cliniquement attesté, mais qu'on n'en parle pas, parce que il y a l'omerta, il y a des intérêts beaucoup trop importants en jeu pour qu'on en parle. Et je trouve ça, moi, aussi grave que la dissémination de la bombe atomique. Je trouve ça aussi grave. Voilà, après.
Juste vite fait, deux questions. Là, sur ce que vous venez de dire, je crois qu'il faut peut-être, moi je ne suis pas prof, tout ça, mais faut peut-être obliger, ce qu'on réalise depuis 30 ans dans l'enseignement secondaire, même peut-être primaire, une analyse de l'image et une analyse du son pour commencer à éduquer les enfants. C'est quand même scandaleux qu'on n'ait pas ça sur écouter des bruits de rue, enfin, dans une pièce, bref. Donc c'est peut-être que ça, pour nous, c'est la base, quoi. Il faudrait commencer par ça. Et juste, moi, quand je vous écoute, moi j'ai lu Stenger, c'est Pignard, et je trouve que c'est très très proche, quoi, votre combat. Et hier, je relisais un texte qui est sorti dans Yves Désert de Deleuze, où il a écrit avec son ami économiste, que je ne retiens pas son nom, sur le... Il y a eu une histoire de fusée en Europe de l'Est, je ne sais pas bien le contexte historique, mais apparemment, il y avait plein de manifestations pacifistes, et cette façon de parler du pacifisme comme pas une utopie ou une idéalisation de pas de guerre, mais comme une force de négociation, que je retrouve à la fin du livre de Stenger, c'est Pignard, quand il parle du pacifisme, d'une start-up, la société capitaliste. Voilà. Le pacifisme paraît être une attitude quand même assez... Je pensais ça maintenant en vous écoutant, assez intéressante pour comme une force de négociation, mais manifester pacifiquement sur les choses comme ça. Enfin voilà. Et comment vous situez par rapport, mettons, aux travaux de Stenger, Pignard, est-ce que vous...
Moi, je ne les connais pas. Alors je peux
vous avez lu, non?
Non,
non. Ah, vous avez pas lu?
Non.
La société capitaliste?
Non.
Alors, je pense que ça peut vous parler.
Je vais le dire. Je vais le dire.
C'est...
Est-ce que je peux terminer
sur
l'expo du rock'n'roll?
Il faut qu'on finisse.
Après, c'est pas un
peu de arrêter. Moi, ce que j'ai vu avant tout, je donne à cette expression une invention, non pas, mais une invention, elle est potentiellement riche en ce nord, c'est-à-dire que moi, j'y ai vu, j'ai documenté l'actualité. On voit des cornes. Le rock'n'roll, c'est des cordes, c'est du rythme. Il y a le mot qui est dans l'instrument, c'est un gros rythme. On a affaire à cette musique. D'une part, la bêtise, c'est que la grosse polémique du rock'n'roll, c'est que c'est du son, une bêtise absolue. C'est-à-dire qu'il y a deux sens, on s'en fout à la sens. C'est dur à traction, mais c'est du rythme. C'est des corps qui dansent, hein. C'est les maîtres au foot de Jean Rouge qu'on voit. Alors, pour comprendre ce que vous disiez, effectivement, on est dans un niveau de France. Le rock'n'roll, le rhythm and blues, c'est de la France. Et on est de. Enfin, la captation, ça passe par les corps. Moi, je vous écoute parce que je vois un corps, je vois un visage. C'est un show, hein. Vous faites. Vous captez l'attention, vous avez votre. Enfin, vous avez été écoute, vous avez une aisance, vous avez un sourire. Alors voilà la notion du corps. Alors quand on parle du corps, notre président, d'une certaine manière, sa technique, c'est le corps. Il nous vend un corps américain. Enfin, il nous vend un rythme. Il nous vend un rythme. Et moi, je... Alors voilà, est-ce que la notion de rythme fait partie d'un développement d'un argument que vous avez développé, enfin...
Non, j'ai pas travaillé là-dessus sur le rythme. Il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui est Pierre Sauvanel, qui a fait des choses très bien. Mais par contre, je pourrais très bien, moi, je crois, m'inscrire dans cette question. Parce que tout ça sont des notes pour un livre que je suis en train de faire, où je parle d'une psychosomato-technique. Et où je dis qu'en effet, alors là, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, il n'y a jamais de psychotechnique sans somatotechnique.
Que peu importe, enfin, voilà, au sens fondamental du terme, que peu importe, je suis moi-même.
Bien sûr. Bon, mais là, on est obligé d'arrêter parce qu'on aurait dû dire à la salle. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir répondu.
Non, non.
Je ne sais pas si vous voulez.